C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au XXIe siècle, quoi. C'est pas pour dire, mais... toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Salut, c'est Charles Cécile. Suzy Ronel aime écouter les rêves et histoires singulières des autres. Colporteuse d'histoire de part et d'autre de l'océan, entre la Caraïbe et la France, elle témoigne, écrit et raconte cet autre dans des spectacles souvent issus des collectages de paroles mémoire. Rencontre avec une artiste généreuse et engagée qui se tient debout derrière sa parole. Angèle Gauduchot l'avait croisée il y a fort longtemps à Vendôme, au Clio, le Conservatoire Contemporain de Littérature Orale, dirigé par Bruno de la Salle, et l'a invité cette année avec son spectacle « Trace d'elle » pour la seconde édition du festival Héroïne de 7 lieues à Nantes. Nous sommes dans un jardin, en compagnie des merles et des mésanges, et c'est parti.
I still have a dream.
Suzy Ronel, bonjour.
Bonjour, Anne-Gaëlle.
Ça va bien?
Mm-hmm.
Ça va mieux d'ailleurs, parce que tu sais.
Ça va mieux après le spectacle. J'ai eu un peu moins de voix, mais.
Ça va. Et. Donc, tu es conteuse?
Oui.
Tu es conteuse depuis toujours? Tu es née conteuse? Ou
oui, peut-être. Peut-être. En tout cas, je sais que petite, je devais avoir quoi? Je devais être en sixième. Et ma mère m'avait acheté une belle robe. Enfin, une belle robe. J'avais des belles robes, mais celle-là, je l'aimais particulièrement. Et puis, elle était restée dans l'armoire. Et comme je devais aller chez les copines... donc j'ai sorti ma belle robe.
La robe.
Et pour aller voir des copines. Et je ne savais pas faire du vélo. Donc les copines m'ont proposé d'aller faire du vélo. Donc j'ai fait du vélo. Avec ma belle robe. Et à un moment, j'ai freiné dans les gravillons.
Donc, tu es tombée ou la robe est passée sous les roues?
Ma robe et moi, nous sommes tombés.
Donc,
ben oui, moi, j'avais des égratignures et la robe aussi. Voilà. Et donc, j'ai expliqué aux copines qu'en fait, il devait y avoir les autres robes qui étaient jalouses. Donc, elles ont dû...
Manigancer
pour que celle-ci... Oui, parce qu'il n'y avait aucune raison qu'elle soit partie. Qu'elle soit sortie, elle, et pas les autres. Donc ça, je devais avoir dans les 10 ans.
On racontait des histoires dans ta famille?
Mon père racontait des histoires. Ah. Oui, mon père nous racontait des histoires sous la véranda. Donc quand il était prêt. Ouais. Donc on se réunissait, on est toujours six.
En ce moment-là, six enfants,
voilà, plus les cousins. Et plus les cousines, et certains soirs, ils nous racontaient des histoires, et de belles histoires. Alors, ils nous racontaient les histoires de compère Lapin et de compère Zamba, qu'ils connaissaient bien. Ils nous racontaient des histoires de Tijan, et notamment un conte que je n'ai jamais retrouvé, où il chantait. Il chantait Tigeant Fléau, ou Trahi Maman de l'eau. Donc Tigeant le Fléau a trahi la Reine des eaux. Et ça, c'était dans le chant. Mais l'histoire, je ne me rappelle pas. Et je sais que c'était une belle histoire et on restait accrochés.
Et donc, il devait y avoir un rapport avec ça.
Oui, puisque le chant était le chant dans notre tradition, en tout cas en ce temps-là, c'était très lié au conte. Et donc, il le chantait et le sifflait.
Ah,
c'était beau. C'était beau. Et d'ailleurs, mon père est mort très jeune. Et normalement, il avait promis qu'il m'emmènerait dans l'Hexagone quand j'irais faire des études. Mais il ne m'a pas emmenée puisqu'il est mort. Il est mort avant. Et donc, je me retrouvais à Montpellier dans l'Hexagone, étudiante. Et ma sœur, qui est plus jeune que moi, était venue aussi. Et un jour, elle m'entend chanter. Et elle me regarde, elle me dit « Suzy, tu te souviens de ce chant ?» Et je la regarde et je lui dis « Toi aussi. » Et elle me dit « Oui. » Et à ce moment-là, je me suis dit « Il est venu. » Voilà. Il est venu nous voir. Mmh. Voilà.
Et lui, c'était des histoires et des chansons qu'il avait apprises de ce
quand il était plus petit. Je pense qu'il avait entendu. Mais en ce temps-là, je pense aussi qu'il y avait un répertoire beaucoup plus étendu, quand il était petit. Donc, il est venu avec quelque chose que je n'ai plus jamais entendu. J'ai interrogé des gens, certaines personnes me disaient oui, mais je n'ai jamais retrouvé.
Alors, t'es née en Guadeloupe ?
Je suis née en Guadeloupe.
Toute ta famille est guadeloupéenne ?
Oui. Oui, on est de différents endroits de la Guadeloupe. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai fait un des premiers spectacles que j'ai fait qui s'appelle Tisosio Petit Avant-Mandé, où je parle des morts de ma famille, dont mon père, et où je parle aussi des endroits où ils sont nés, où sont nées leurs familles, puisque dans différentes communes de la Guadeloupe jusqu'à Marie-Galante. Qui est une île, on est de souche aussi Marie-Galantaise, quoi. Voilà.
Angel Gauduchot en compagnie de Suzy Ronel.
Ça veut dire que tu arrives en France, ici dans l'Hexagone, pour faire tes études ?
Oui.
Pas des études de conteuse ?
Non. Au départ, j'avais choisi l'histoire et la géo.
D'accord.
Oui. Et puis après, je ne devais pas être travailleuse en ce temps-là. Je dirais en ce temps-là, puisqu'avant, oui, je l'étais, mais en ce temps-là, je ne devais plus l'être tellement. Donc, finalement, j'ai laissé l'histoire et la géo, d'autant plus que je voulais faire de l'archéologie. Et on m'avait dit, les profs, surtout les premières années, on te décourage certainement, souvent. Et donc, les profs m'avaient dit, ouais, mais qu'est-ce que tu veux ? Il n'y a pas d'archéologie à faire en Guadeloupe. Et du coup, ça m'a, au lieu de me dire non, il dit n'importe quoi, j'y ai cru. Donc, je suis allée, j'ai fait quelque chose de plus court et j'ai fait du travail social. Je suis partie faire l'école d'éducateur à Montpellier, un petit peu de psycho aussi avec.
Donc tu as été d'abord éducatrice pendant.
J'ai d'abord été éducatrice pendant une vingtaine d'années.
Oui. Est-ce que ça veut dire que pendant cette vingtaine d'années, tu as oublié cet univers des histoires qui appartenait à quand tu étais petite ?
Non, pas vraiment. C'est-à-dire que je ne racontais pas vraiment des contes. Mais par exemple, mes neveux, ils sont nés en France. Les enfants de mon frère aîné. Et j'allais... on se retrouvait à Noël. Dès que j'avais des vacances, on partait chez mon frère aîné, qui avait des enfants plus petits.
Il était à Montpellier aussi ?
Non, il n'était pas à Montpellier. Il était militaire de carrière, donc il bougeait un peu partout. Donc il est venu en Bretagne, il est en Normandie. Et nous, on se déplaçait, on allait le voir, les copains, mes soeurs, ma soeur, enfin, voilà. Et quand aux enfants, je racontais notre enfance en Guadeloupe, ma manière.
Ma manière.
Donc les premières oreilles, à part mes copines qui m'ont entendu raconter, c'était mes neveux.
Et ça veut dire que c'était une manière aussi de faire un pont, faire du lien avec cette histoire-là familiale qu'ils ne connaissaient pas.
Qu'ils ne connaissaient pas, mais qu'ils connaissaient un petit peu, puisque leurs parents leur en parlaient. Ouais. Mais quand la tati, elle arrivait, ils étaient là, et puis... Moi, je parlais comme ça facilement avec eux, leur raconter mon frère, moi, les parents, tout ça. Et eux, ils écoutaient, mais je ne faisais pas attention. Et d'ailleurs, c'est eux qui m'ont dit, Tati, on aimait quand tu venais, quand tu arrivais, et que tu nous racontais. Oui, donc c'est comme ça que j'ai appris que je racontais.
Donc il y a un moment, donc tu deviens éducatrice.
Oui,
dans des quartiers populaires.
Oui, alors j'ai été éducatrice, comme beaucoup, dans des internats, mais ça ne m'a pas plu. Ouais. Et d'ailleurs, je voulais laisser ça parce que ça ne m'intéressait pas d'être enfermée, d'être avec des enfants enfermés. S'il y avait quelque chose qui me heurtait. Donc je me suis dit, j'ai ce diplôme, mais je vais aller faire autre chose. Et puis, entre-temps, je me suis mariée et mon mari partait dans l'est de la France. Donc j'ai cherché du travail quand même. Et là, je suis tombée sur la prévention spécialisée, que je ne connaissais pas. Je ne savais pas exactement ce que c'était, mais j'ai vu une annonce. Je suis allée me présenter et puis le directeur m'a emmenée faire le tour des quartiers pour voir un petit peu que voilà ce qu'on te propose. Et j'ai dit, ça m'intéresse. J'étais dehors. Je n'étais pas enfermée dans un internat. Et donc, j'ai dit, ça m'intéresse. Et puis, en plus, je crois qu'il y avait une bonne équipe. J'étais la seule femme, on était quatre, donc il y avait trois hommes. Mais c'était une sacrée équipe. Et donc, du coup, ça m'a plu. Je suis restée 15 ans là-dedans.
15 ans,
là-dedans. Sur 20 ans, c'est...
Beau jour, yo crié li conscrit. Faut te laisser tout bitin de yeli. C'est qu'on sort en vrai léonce pâti. Aïe, défendre la mère patrie. Léon se descend Cayenne. Il dit moi, il caille caserne Loubert. Si on dit, il allait fort de France. Pour ensemble, il a pâti Saint-Nazaire. En bas la café frette. Oléance est souqué si poté. Pour doudou, qu'est en moins café moins mal. Aïe, Léonce, moins aimez-vous. Léonce, moi aimez-vous.
Eurydice de Suzy Ronel, avec Serge Tamas à la guitare.
Bon, ça t'est venu l'idée de raconter des histoires, parce que c'est pas.
Oui. Alors je raconte. Non, je raconte. Alors ça m'est arrivé de raconter comme ça. En même temps, je prenais les livres parce que après avoir raconté l'histoire familiale aux enfants, il y a un moment où je suis passée à leur raconter des contes qui étaient dans les livres que je trouvais dans les livres, des contes des Antilles forcément que je leur racontais. Et un jour, je me suis retrouvée avec. Alors, quand j'étais éducatrice, je faisais faire du théâtre aux enfants, aux jeunes, pour dire un petit peu leur. S'exprimer. Mais ce n'était pas moi qui dirigeais le théâtre, j'étais pas. Donc, je faisais venir des comédiens. On trouvait de l'argent, et puis voilà. Et un jour, il y a un comédien qui fait quelque chose dans une école et qui m'invite. Donc, je suis invitée, je me fais un repas et tout. D'ailleurs, c'était sur les Antilles, le thème était les Antilles, donc il m'invite. Puis il me dit, est-ce que tu pourrais raconter quelque chose ? Donc, voilà. Donc, il m'avait averti avant, donc j'ai pris un conte dans un livre j'ai appris mon conte par cœur. Et je suis allée raconter
cette chose
dans cette soirée qui était une soirée c'était pour récupérer de l'argent pour emmener des jeunes en Guadeloupe ou quelque chose comme ça. Donc, je suis allée raconter. Et ça a bien marché avec mon conte appris par cœur. Ah, je ne ratais pas un mot, voilà. Oui. Donc, je savais pas comment ça marchait, moi j'ai appris, et voilà. Et ça s'est bien passé. Et puis je me suis sentie à l'aise là-dedans. Et le comédien est venu me voir, il me dit, mais voilà. Il me dit, mais t'es pas la même. Entre l'éducatrice et tout ça que je connais, c'est pas la même personne. Tu devrais continuer là-dedans. Je lui ai dit oui, mais bon. Voilà quoi. Mais malgré tout, quelque part, c'était resté dans ma tête. Donc j'ai continué et puis j'ai fait mon truc de chef de service et c'est là que je me suis dit bon.
Et là, tu repenses à ça?
Et entre-temps, j'étais arrivée en région parisienne et j'étais allée travailler avec des conteurs, mais en tant qu'conteur amateur. Oui. Et puis, à un moment, quand ça n'a pas plus fonctionné dans l'éducation spécialisée, je suis partie raconter. Mmh. Voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne là-dedans? Ou est-ce que j'essaye de voir pour le compte. D'autant plus que j'avais un directeur qui me disait « Vous parlez en parabole ». Alors j'ai dit « Bon, si je parle en parabole, je me suis. Ça doit être ça qui me...
Ouais. » Tu crois partir dans une direction, et c'est dans une autre que tu atterris. Les systèmes de navigation, GPS, satellite, s'envoie des ordres, se contre-ordre, se détracte, pète un câble, et c'est toi qui es dérouté. Mikonsa, Messieurs et Dames, en débaqué à Sinnamary, en Guyane, en plein commune, a désolé la diablesse, alors qu'en Tepoy et à Paris, en France. Mais je ne me suis pas laissé démonter. Excusez-moi, Messieurs et Dames, je leur ai dit là-bas à Sinnamary. Je ne suis pas venu vous déranger. Je cherche un soldat qui aurait dû être mon arrière-grand-père et que mon arrière-grand-mère attend.
GPS de Suzy Ronel.
C'était évident pour toi qu'il fallait que tu racontes les contes de la Guadeloupe ou des Antilles en général.
Ce qui était évident, c'est que c'était mon histoire. C'était mon histoire, je baignais là-dedans, c'était ma culture. Et si je pouvais parler de quelque chose, C'était de ça. Ouais. Alors, il faut que je dise aussi qu'en tant qu'éducatrice de quartier, de prévention spécialisée, pour être avec les termes, voilà, je rencontrais les familles. J'allais dans les familles et j'écoutais leur histoire. Donc, beaucoup de familles maghrébines, turques aussi, puisque j'étais dans l'est de la France. Voilà quoi. Pas d'antillais. Pas d'antillais, puisqu'il n'y en avait pas là-bas.
Donc tu entendais leur histoire
et... J'entendais leur histoire. Et je dis que, en fait, pour moi, c'est une suite. Tout ça, c'est une suite, parce que j'entendais des histoires. Et il fallait que j'aide les gens à construire autour de, à partir de leur histoire. Ouais. Quelque part, à aussi rêver avec ces personnes de quelque chose de meilleur. Donc, pour moi, c'est une suite. Donc, voilà. Donc, ouais. Là, je suis passée à côté, voilà.
On fait une petite parenthèse, mais tout à l'heure, dans la voiture, tu me disais... il faudrait trouver aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de conteurs en Guadeloupe. Et puis, il faudrait trouver un moyen de ramener de la vie là-dedans.
Oui, c'est vrai. Donc, mon idée, si j'arrive à mettre ça en place, ce serait effectivement faire que les personnes qui viendraient dans des stages où les aillent écouter la vie des gens, leur vie, leur vécu. Commencer par là pour pouvoir se nourrir de tout ça pour raconter.
Quoi. Ouais. C'est quoi les personnages traditionnel des contes en Guadeloupe alors.
Alors il y a le compère Lapin, voilà qu'on retrouve aussi aux États-Unis. Et puis il y a.
C'est ce personnage un peu malin.
Oui c'est ça,
qui joue des tours.
Oui il y a un peu l'araignée.
Ah oui aussi.
Oui. Ce sont les contes qui sont restés un petit peu. L'araignée beaucoup moins, mais bon, ça existe encore un petit peu. Il y a compère Zamba qui n'est pas du tout malin. En fait, si tu vas en Haïti, c'est Bouki et Malice. On l'a, nous, c'est compère Lapin et compère Zamba. C'est Bouki et Malice, Voilà. Il y a la sirène, Maman de l'eau. Il n'y a pas beaucoup de choses dessus. Il y a des anecdotes, mais il n'y a pas beaucoup de récits et de contes. Il y a la diablesse, celle qui a un pied, un sabot fourchu et un pied humain. Donc ça, ce sont les personnages. Après, il y a d'autres personnages, mais ils font partie d'histoires comme le soukouignan qui s'en va voler la nuit pour sucer le sang des gens. Enfin, c'est une femme qui se... Oui, il y a quand même un conte, c'est une femme qui change de peau. Enfin, c'est une femme, c'est ce qu'on dit. Qui change de peau dans la nuit et qui s'en va faire du mal aux autres. Sur un personnage.
Les fameuses formules.
Ah oui, il y a les formules. Il y a les formules. La cour d'or. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Si la cour ne dort pas, c'est Isidore qui dort avec un.
Elle servait à quoi ces formules alors?
Alors ces formules servent à redémarrer.
C'est
au milieu d'un récit et c'est un peu réveiller l'assistance.
Oui, parce que tu poses la question, l'assistance
qui te dit non, nous sommes là. Ouais. Parce que le conte, ce n'est pas simplement une histoire que tu vas raconter, c'est une veillée. C'est lors d'une veillée. On réveille l'assistance avec ça, tout comme le yécrac qui revient, qui est au départ pour ouvrir. Et d'ailleurs, il y a autre chose aussi pour ouvrir, ce sont les timtim bois secs, c'est-à-dire les devinettes. Mmh. Et, mais sinon, il y a les cris qui éclatent pour ouvrir aussi et pour fermer. Mais entre, dans la soirée, les cris ou même dans un conte, les cris qui éclatent vont revenir parce que c'est une façon de ramener le public à chaque fois, l'auditoire à chaque fois dans.
Est-ce que tu dirais que c'est dans toutes les Antilles ou c'est spécialement au départ, spécialement de la Guadeloupe, ça?
Non, ce n'est pas spécialement de la Guadeloupe. Alors, je ne sais pas si c'est dans toutes les Antilles, je ne connais pas assez, mais me semble-t-il que c'est quand même très, très, très répandu. Très répandu dans les îles. Ouais.
Et les chansons, c'était... que tu disais, reliées aux histoires?
Oui, parce que j'ai connu ça quand j'étais petite, quand j'ai dit que mon père chantait cette histoire sur Maman de l'eau, qui m'est restée dans la tête jusqu'à maintenant, avec Tijan Fléau. Et j'entendais, oui, il chantait et il sifflait dans les contes. Donc j'ai été, et ne serait-ce que pour lui, je garde ça. Du coup, j'écris les chants. Des fois, quand ils sont, même si je prends un conte du répertoire, traditionnel, je vais écrire le chant qui me semble aller avec. Ouais, voilà. Parce que pour moi, c'est le conte va avec le chant.
Où pénit tout le temps, printemps. Caribé en froid seulement. 20 ans c'est danser, chanter. 20 ans c'est rire, aimer. Pas occupé au disayo qu'a dit. C'est contre l'eau si fait à ma terre. Laissez couler la vie. Des dos sont l'autre pays. Pas occupé au disayo. Si fait y'a ma dette, laissez couler la vie. Des dos sont l'autre pays. Vous pénit tout le temps, 20 ans. Arrivé en froid seulement. 20 ans c'est danser, chanter. 20 ans c'est rire, aimer.
20 ans de travail. C'est pas pour dire des couleurs et des accents à la douceur créole que notre invitée Suzy Ronel nous fait découvrir.
On t'a entendu cet après-midi raconter une sacrée histoire, c'était quoi?
Trace d'elle.
Oui. Alors, d'elle, tu
d'elle, sais pas, tu d'elle au pluriel. Oui. Il y a une trace, mais qui est la trace d'elle, de toutes ces femmes qui ont. Qui, pour moi, ont un petit peu. Qui ont aidé la petite fille que j'étais à rêver, à grandir. C'est des femmes de conte, ou des femmes de récit.
Il y avait donc ça, tu as commencé par qui?
J'ai commencé par Mboya, qui est donc une jeune femme dans un village africain d'Afrique de l'Ouest, et puis qui épouse un. Qui va épouser Niamey, le dieu, quoi. Voilà, quoi. Ouais. Donc, j'ai commencé par cette femme, et puis a suivi Makeda, la reine de Saba. Mais j'ai pris la version éthiopienne, à partir de récits. Puis est venue Nani.
Alors là, tu as changé de zone géographique.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, c'est ça. C'est un voyage entre une petite fille et son arrière-grand-mère qui est morte, qui lui passe ses traits, et puis elles voyagent toutes les deux ensemble pour retracer. D'où le mot trace.
Cette femme
guerrière là, comment elle s'appelle, tu dis?
Nani la chantie, Nani la grande marronne, oui, donc qui vient de la jonquille jamaïcaine, c'est une histoire.
Oui, tu dis qu'elle est aujourd'hui, elle est encore sur les billets,
sur ses billets oui, les frais de Nani sur les billets
toutes
de la Jamaïque.
C'est toutes des sacrées héroïnes.
Oui. Et puis à la fin, Rosa Parks. Ouais,
voilà. Avec la fameuse anecdote du bus.
C'est ça, quand même.
Pour, je ne me lève pas.
C'est ça. Pour le droit à l'égalité. Ouais. Voilà.
Donc toi, tu racontes maintenant des histoires depuis 20 ans.
Oui, peut-être avant, maintenant. Mais maintenant, oui, en tant que conteuse, quand j'ai changé de métier, depuis plus de 20 ans, oui.
Quand tu as décidé d'être conteuse, après, j'imagine, tu t'es formée dans...
Alors, quand j'ai décidé d'être conteuse, j'ai commencé avec les conteurs amateurs que je connaissais. Et puis on allait dans les bibliothèques, depuis c'était dans la région où j'étais, c'est-à-dire dans le 95. Et puis après je suis allée, parce qu'on en parlait un jour au Clio, pendant les vacances d'ailleurs.
Le fameux
centre de littérature orale, à ce moment-là ça s'appelait comme ça, après ça a changé un petit peu, mais bon. Et donc je suis allée là par curiosité, pour voir ce qui s'y passait, pour voir qu'est-ce que c'était que
cet endroit-là,
et les conteurs aussi, puisque je connaissais ceux qui étaient avec qui je travaillais, mais je ne connaissais pas, Donc je suis allée là, et en ce temps-là, au Clio, je ne sais pas si ça ça a continué, mais pendant l'été, il y avait des scènes, ça ne s'appelait pas des scènes ouvertes, mais c'était un peu ça, c'est-à-dire que...
C'est ça, les gens pouvaient venir...
Les gens pouvaient venir et raconter. Comme je racontais déjà avec les conteurs amateurs, je suis allée raconter une histoire. Apparemment, moi je ne l'ai pas entendu, mais quelqu'un qui travaillait avec une conteuse qui travaillait avec Bruno est venu me dire que Bruno apprécie et qu'il aimerait que je vienne au Clio.
Super.
Oui, c'était pour la première fois. Et en ce temps-là, je travaillais encore, donc je ne pouvais pas venir au Clio.
C'est ça.
Oui. Mais comme ça se passait pas spécialement bien avec mon directeur, donc ça a mal fini tout ça. Et ça a fini par un divorce, voilà, c'est ça. Et donc, je suis arrivée au Clio quelques temps après, Bruno m'a vu débarquer.
C'était un moment intéressant pour toi, important.
Oui, parce que ça me mettait un pied dans le monde, de rencontrer d'autres conteurs, de voir aussi un petit peu comment on pouvait travailler sur une histoire qu'on écrivait soi-même, même si on partait d'un conte qui existait, mais comment on pouvait le réécrire ce conte, réécrire cette histoire. Ça m'a intéressée.
Apprendre par cœur des...
Oui, bon, j'apprenais déjà plus par cœur, mais c'est vrai que malgré tout, j'étais... Et là, c'était... Parce que je pense que dans mon idée à moi, entre le fait de raconter les histoires de notre vécu depuis, aux enfants, à mes neveux, plus le travail que j'ai fait en tant qu'éducatrice auprès des gens à écouter leurs histoires et qui n'étaient pas des contes. Et malgré tout, de travailler aussi sur du mieux. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces histoires pour aller vers un mieux. Donc, je pense que j'étais là-dedans. Donc, ça m'a intéressé le travail qu'on faisait au Clio. On a travaillé sur les mythologies. Et d'ailleurs, je voulais parler de Bob Marley.
Tu l'as fait ?
J'ai fait des débuts, mais j'ai pas eu le courage d'aller. Peut-être que ça viendra un jour. Et puis après, on est parti sur les mille et une nuits. Alors, ce qui m'a intéressé dans les mille et une nuits, d'ailleurs, je l'avais dit à Bruno, c'est pas tant... ce que j'avais l'impression que sous-entendaient les mille et une nuits, le racisme et tout ça. Donc ça, je ne voulais pas raconter, je lui avais dit. Ça ne m'intéressait pas. Par contre, la façon dont c'était écrit, ces histoires cadres, ces histoires qui sont... Donc j'ai travaillé quand même et là-dessus pendant une année, je crois, avec le Clio. Une année. Et après, je suis partie parce que je n'avais pas l'intention de raconter les histoires des mille et une. Oui. Ça ne m'intéressait pas. Ou alors, il aurait fallu passer à quelque chose d'autre, lui subvertir ou quelque chose comme ça. Et je n'étais pas prête à ça. Quoi. D'ailleurs, il y a une journaliste qui me l'a demandé, qui m'a dit en tant que noire, hein, je suis assez frappée que vous racontiez les mille et une nuits, puisque c'était le thème, et je lui ai dit non, je ne raconte pas. Ça ne m'intéresse pas de raconter les mille et une nuits. Et elle m'a dit alors, vous pourriez peut-être subvertir les contes des mille et une nuits. J'ai dit oui, peut-être qu'un jour ça m'arrivera, mais je ne l'ai pas fait non plus.
Toujours avec Suzy Ronel.
Je te donne comme enveloppe pour habiller ta nudité mon apparence, dit l'ancêtre à l'enfant. Et toi, en contrepartie, tu poursuis mon histoire, fais vivre ma mémoire. Et mon nonne, mon arrière-grand-mère, celle à qui je ressemble tant, avait bien, elle aussi, son marché à me proposer. Ça a commencé dès la maternité. Quand je suis arrivée au monde, mon âne s'est précipitée sur moi pour me parler. Je ne la voyais pas, tout était brume et brouillard autour de moi. Mais j'entendais sa voix qui me disait « J'aurais voulu pour toi l'enfant nouveau-né, te donner bien plus qu'une apparence, bien plus qu'une ressemblance. J'aurais voulu te chanter qui tu es, d'où tu viens et ce qui t'attend. Las, nos mémoires d'esclaves déportés se sont arrêtées là-bas en Afrique, aux portes de l'île de Gorée. Maintenant que je suis morte, maintenant que de l'autre côté je suis passée, il me faut retrouver sur ces pistes brouillées par ces traces presque effacées, mon histoire, notre histoire à tant d'autres mêlées. Dans cette aventure, morts et vivants sont liés. Moi, je peux être à tes côtés, t'accompagner. Mais toi, l'enfant, tu dois m'aider à chercher. Concluons ce marché. Quand la voix de mon âne s'est tue, j'ai poussé mon premier cri. Notre pacte était scellé.
Un extrait de Traces d'ailes de Suzy Ronel. Il y est question de l'esclavage, de souffrance, de résistance. Un récit pour saisir le vent du désir de vivre, apprendre à devenir, avancer et se révéler à soi-même.
On effleure cette question-là de... Quand on est conteuse, quel genre de responsabilité justement on a sur le ce qu'on raconte, comment on le raconte? Est-ce qu'il y a un aspect politique dans le sens responsabilité?
Je le crois. Peut-être que d'autres penseraient autrement. Hein, bon,
oui, mais toi,
mais moi, je pense que si je suis allée vers le conte, si j'ai choisi d'aller vers le conte et de prendre le risque, parce que c'était un risque, entre un salaire qui tombe et devenir intermittent, en plus j'ai bien vu la réduction dans les finances. Et donc si j'ai pris le risque de faire ça, c'est que j'avais des choses à dire. J'avais des choses à dire Je ne pouvais pas les dire n'importe comment, donc je dis oui, voilà. Donc je pense que je... Oui, comme on dit chez nous, on est debout derrière sa parole.
C'est joli.
Oui.
On est debout derrière sa parole.
On est responsable de sa parole. En tant que conteur, on est debout derrière sa parole.
C'est beau.
Oui, voilà. Donc,
Et toi, quand tu es debout derrière ta parole, est-ce qu'aujourd'hui, après 20 ans de parcours dans les contes, tu as l'impression d'avoir dit ce que tu avais à dire? Il y a encore des choses que tu n'as pas encore osé effleurer? Ou bien, t'en es où de ça?
Oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que, je n'en ai pas parlé, mais voilà, je pense qu'il y a une part de notre histoire de Caraïbéens, d'enfants, de filles et fils d'esclaves qui a été... Peut-être pas effacé. Enfin,
pas parler.
Pas parler.
Pas parler.
Pas parler. Et que c'est à nous de le faire.
C'est sûr.
D'où le fait d'être debout derrière ma parole. Et c'est ce que j'essaye de faire. Du coup, je dirais que j'utilise les contes. Hein, c'est peut-être pas le bon mot, mais je prends les contes et je m'en sers pour.
Mettre des mots sur cette histoire qui n'était pas parlée, en effet.
Qui n'était pas parlée, oui. Et qui, et même les histoires qu'on vit maintenant, c'est pas... Oui, c'est...
Quita! Quita, me disent des camarades soldats. Tu es de chez nous, tu sais. Tu as une grande famille au Sénégal. Allez, viens, rentre avec nous au Sénégal. Le Sénégal. Papa Yassa Kouéta, l'aïeul, disait qu'il venait de là-bas. Et il répétait avec force qu'il était un nègre engagé. Pas un nègre esclave, non. Un engagé. Il avait été affranchi par les Anglais qui avaient mis le grappin sur le Sénégambie, un bateau français. Papa Yassa Kouéta et d'autres captifs étaient dans les cales du Sénégambie direction les Américains. C'était en 1840. La traite des esclaves était abolie depuis plus de 20 ans, mais le trafic continuait. Les nouveaux affranchis n'ont pas été repatriés vers les côtes africaines. On a fait deux des engagés. C'est comme ça que Papa Yassa Kouéta est arrivé en Guyane. Et le Sénégal. L'île de Gorée. La ville de Dakar. Le fleuve Sénégal. Le Sénégal et ses femmes longues, longues, longues comme des lianes. Mais, je rentre chez moi, m'occaler dans mon pays, la Guyane.
Poeta de Suzy Ronel.
Alors du coup, comme ta manière de raconter, c'est pas, tu recopies pas les manières traditionnelles
non,
seulement,
non,
t'es une
non.
artiste...
Oui.
Et pas seulement quelqu'un qui reproduit une tradition.
Non.
Comment, ça va quand tu racontes en Guadeloupe, ça marche?
Oui, ça marche. Oui, ça marche. Je vais raconter des choses qui nous concernent. Et
oui,
d'ailleurs, c'est ce que quelqu'un m'a dit, tu dis des choses qu'on ne dit, on ne peut pas dire ou qu'on n'ose pas dire. Et toi, tu le dis. Donc les gens, oui,
ouais.
Surtout des femmes. Les hommes aussi, mais ils le disent moins, mais des femmes. Et en fait, je... Oui, je... Donc, je ne, il n'y a pas de souci, puisque je ne voilà, je raconte pas ni avec des yécrits, ni avec des yécraques, mais je raconte quelque chose
qui fait partie de la
fait
vie,
partie de la vie des. Oui, puisque, oui. C'est ce que les chamoiseaux ou les autres appellent la parole détournée.
La parole détournée.
Détournée, oui. Je pense que le conteur a...
Tu peux juste dire là, on parle à des gens qui n'ont pas lu.
Oui, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément Chamoiseau seulement qui le dit, il l'utilise. Mais je pense que la parole détournée, c'est le fait de dire des choses qui existent, mais de le dire sous une certaine forme, avec des images, avec des...
Tu disais tout à l'heure, voilà, tu parles en parabole.
Oui, je parle en parabole, oui, donc c'est un petit peu ça, quoi, c'est... voilà, mais en même temps, les gens savent bien de quoi tu parles, enfin, où ils entendent, puis en même temps, ils entendent ce qui les concerne, et chacun va entendre aussi ce qui le concerne, lui. Et c'est peut-être ça la parole détournée.
Donc, tu dirais que c'est ça ce qui fait qu'on a encore besoin aujourd'hui de raconter et d'écouter des histoires.
C'est ça,
qu'on est dans une parole détournée.
Détournée, oui. Et je vais donner, par exemple, je sais que je suis. C'était il y a plus de 20 ans, c'était à Chevilly-la-Rue. Et donc, j'étais parmi les nominés.
À Chevilly-la-Rue, pour dire aux gens qui ne savent pas, il y avait pendant tout un temps un concours.
Oui, c'est ça. Quoi.
Un concours de conteurs, donc avec des finales, des avec demi-finales.
Et une finale. Et j'étais parmi les finalistes, les 8 finalistes. Et je racontais d'ailleurs un conte que j'avais pris chez Chamoiseau. C'était tout au début et je l'avais un peu transformé, beaucoup transformé, parce que Chamoiseau, c'est un littéraire, quoi. C'était pas du... Oui, voilà. Beaucoup transformé, coupé, tout ça, et mis à ma sauce. Et je suis arrivée en demi-finale avec ça. Et c'était sur la mort et une vieille femme qui faisait peur parce qu'elle était gardienne de cimetière. Donc, Chamoiseau reconnaîtra, on le dit. Et donc, en demi-finale, je reprenais ce que j'avais fait. Enfin, en finale, je reprenais ce que j'avais fait en demi-finale. Voilà. Oui, c'est le même récit. Et puis, j'ai pas eu le prix, mais bon, j'étais en demi-finale, c'était déjà pas mal pour moi. Surtout que je commençais dans le compte. Oui. Hein, voilà. Et je sors de là, et il y a 3 femmes qui viennent me voir. Et elles me disent, c'est fou, on est arrivé là. Et dans la voiture, pendant qu'on venait, on parlait de la mort. Et je crois qu'il devait y avoir un... problème de, il y avait un souci, quelque chose, mais je ne me rappelle plus. Et elles me disent, on arrive là, et on arrive là, et on entend ça. Merci. Parce qu'elles en ont discuté pendant tout le long, et elles arrivent là, c'est comme si on a pas... C'était pas une réponse, mais...
Un genre de réponse, une manière de parler des choses.
C'est
notre...
ça. Oui, voilà.
Pas frontalement.
Oui, voilà, complètement. Et donc, comme si, c'était une parole qu'elles attendaient et qui était là. Alors que moi, je ne m'adressais pas à ces 3 femmes, quoi. Donc, je veux dire. Donc, on reçoit aussi dans cette parole-là, dans la parole du conteur, ce qui nous pose question. Oui. Une autre fois, avec cette même histoire de mort, parce que, de Manloudi, qui est la gardienne du cimetière, je m'en vais. Alors, oui, c'était vers Perpignan. J'ai des conteurs qui étaient avec moi d'ailleurs au Clio. Et ils organisaient une soirée. On m'avait invité, le billet payé. Bon, on n'est pas payé, mais voilà. Et j'arrive. Et sur la place, je raconte cette mélodie. C'était devenu
mon tube.
Et donc, je raconte cette mélodie. Et le président, on rentre chez lui après. Et sa femme, elle me dit merci. Et je lui dis pourquoi ? elle me dit merci parce que on ne va pas rester avec vous. Le père de mon mari est mort. Et c'est pas ici, en fait, c'est dans une autre commune. Et on vous a attendu, mais on va partir. Donc vous seriez reçus. On n'était pas seuls, mais nous, on est obligés de partir parce que voilà. Et elle me dit, je te dis merci, parce que je me posais la question de savoir si j'emmenais les enfants. On se posait la question, on n'avait pas de réponse. Et tu nous as dit oui. Que la mort n'est pas triste du tout, parce que c'est ça que ça dit. Et que voilà, c'est quelque chose à accepter. En fait, si ça ne dit pas ça comme ça, mais voilà. Et donc elle m'a dit, tu nous as donné la réponse, on emmène les enfants.
Ta changement qu'a déformé tout ça au contraire ou palais en dévorant lumière soleil lumière la lune en couche la pluie en couche grand vent. En couche grand vent, en couche la pluie, en couche grand vent, en couche la pluie. Dans la maison en dur de tonton Georgilien, avaient dit les grands-parents, vous serez bien plus à l'abri qu'ici. Nous, vous pensez bien, on aurait préféré rester avec Manda et Papa Philo dans leur petite case. On s'était dit avec mon cousin que dans les moments forts du cyclone, on se serait serré l'un contre l'autre et on aurait fermé les yeux comme lorsque les grandes personnes nous racontent les histoires sur la diablesse qui font peur, très peur.
Un extrait du conte musical Lady Ablès dans Moi, mon cousin et l'ouragan, Suzy Ronel.
C'est une curiosité, mais est-ce qu'il reste dans ces récits, dans ces contes traditionnels, est-ce qu'il reste des traces de toute cette, de toutes ces divinités d'Afrique?
Alors, il y a un mélange. Dans nos cultures créoles, il y a un mélange. Donc, il y a, oui, cette divinité de la mer des eaux africaine, je pense, une partie, mais elle a rencontré aussi la divinité de la culture amérindienne,
ah oui, c'est
qui
ça.
Était dans l'île. Et Maman de l'eau, c'est un mélange de tout ça, le peigne de Maman de l'eau qu'on raconte, c'est, voilà. Et certainement aussi, c'est cette sirène des Européens, quoi.
Tout ça, c'est vraiment...
Tout ça, ça a fait, voilà, ça oui, complètement, ça a fait, Et c'est ça, c'est comme ça qu'on les rencontre. Donc je pense que, et puis celles qui font peur, les soukouniens et tout.
Les quoi?
Les soukouniens, c'est-à-dire celles qui vont enlever leur peau et tout ça. En tout cas, je me suis aperçue que, comment on l'appelle? Sarah Gangan, qui se trouve du coup du côté de Trinidad-Tobago. Elle venait d'Afrique. Sarah Gangan, c'est une dame qui, d'après une légende de Trinidad-Tobago, a perdu ses enfants pendant l'esclavage. Ils sont, pendant la traite, on est parti, on les a emmenés en esclavage. Et elle, elle a suivi. Elle a, à un moment, elle s'est transformée, elle est devenue un oiseau. Et elle a volé au-dessus de la mer pour venir rejoindre ses enfants. Et Gangan, Soukounian, voilà, des consonances comme ça.
Et puis, il y a plus le fait
des femmes qui volent et tout ça. Oui, et donc je me dis, oui. Voilà, c'est, ça se transforme, ça devient une histoire en rapport avec l'esclavage, avec la traite et tout ça, que tu ne verras pas là-bas. Mais le personnage, il va se transformer aussi, mais il va rester des traces. Et je suis sûre qu'on...
Des traces, toujours des traces,
oui, voilà. Oui, et en parlant de traces aussi, c'est vrai qu'on est dans la culture de l'oubli, donc il nous reste des bribes. Qu'est-ce qu'on fait de ces bribes? Voilà, il nous reste des bribes de l'Afrique, des bribes des Amérindiens. Et peut-être moins de bribes de l'Europe, mais il reste des bribes. Donc, il faut construire avec ces bribes, et je continue à construire avec ces bribes.
Oui, ça me fait penser tout d'un coup que tu m'as parlé tout à l'heure de ce sur quoi tu es en train de travailler, qui parle de tissage quand même. Qu'on fait avec des bribes?
Des bribes, oui, des patchworks, ça quoi. Donc, on va tisser, on va recréer.
Donc, tu travailles sur les araignées?
Et je travaille sur les araignées actuellement pour qui tissent.
Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de particulier dans ta manière de travailler qui part d'abord de l'écoute.
Oui.
Parce que, si j'ai bien compris,
c'est ça.
Ces histoires d'araignées,
oui.
Tu les as d'abord entendues.
J'ai pas entendu des histoires d'araignées, j'ai surtout entendu des femmes qui racontaient et j'en ai vu qui tissaient et il m'est venu l'histoire, il m'est venu l'idée de l'araignée et je me suis dit mais est-ce qu'elles ne sont pas plus en train de tisser quelque chose?
C'était des femmes
de culture amérindienne de
Louisiane. Et elles aussi, donc il leur reste des bribes en fait.
Surtout sur certaines histoires, oui, il reste encore des bribes, donc il faut tisser, quoi.
Alors, il faut que je décrive ce qui se passe là tout de suite. On était toutes les deux autour d'une table en pleine forêt vierge. Et tout d'un coup, deux hommes
ont surgi
avec de l'eau, du vin, de la salade et des sauces. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare. Non, on va manger.
Oui, c'est la partie guyanaise de Saint-Herblain. C'est ça.
Monsieur Charles, Cécile.
Nous sommes deux hommes des bois et nous venons vous proposer de manger.
Voilà.
Bah, je crois que c'est la fin.
C'est la fin. Oui, on a bien.
En tout cas, merci.
Merci.
À ta place.
C'est pas pour dire, c'est fini pour aujourd'hui. Ah, vous pensiez rester aux Antilles, n'est-ce pas? Bon, merci à Suzy Ronel qui nous a fait voyager entre le merveilleux et ses souvenirs d'enfance. Merci également à Angel Goduchot derrière le micro. Oui, je comprends, c'est triste de nous quitter, mais vous pouvez réécouter cette émission et ses petites sœurs sur le site www.cepaspourdire.fr. Nous envoyez des commentaires et des suggestions sur la page Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles rencontres.
C'est pas pour dire était comme chaque mois produite et réalisée par la compagnie La Lune Rousse sur une idée de Anne-Gaëlle Goduchot et présentée par Charles Cécile.